Actu SF, les podcasts.
Bonjour et merci, il fait tellement beau, plein de gens sont dehors, mais il y a quand même quelques courageux festivaliers, quelques courageuses festivalières qui sont venus assister à notre ultime rencontre, détendue, reposée, un peu fatiguée aussi. C'est toujours ce dernier café qui est quelque peu étrange. En fait, c'est un café, quand on me demande à quoi il sert, c'est très simple, ça a évité ma dépression post-festival. Celle des auteurs aussi, quand ils restent, parfois. Vous avez vu, vous avez participé parfois depuis le début à ces 17e imaginales. Ça a été évidemment un moment de folie, ça a été un succès encore plus considérable que l'année précédente. À un moment donné, je vais en parler aux responsables, il va falloir que ça cesse, ça ne peut pas continuer comme ça. Les libraires nous donneront bien sûr en interne leurs chiffres, mais je sais déjà que le jeudi, on a fait plus 20% par rapport à l'an dernier, qui est évidemment le meilleur chiffre depuis toujours. On a fait un vendredi supérieur au plus meilleur vendredi qui était celui d'il y a 2 ans. Donc c'est le plus beau vendredi de vente qu'on ait jamais eu aux Imaginales. Je savais déjà 16h le samedi qu'on enfonçait les résultats de l'année dernière. Je n'ai pas ceux de dimanche, je ne suis pas extrêmement inquiète, pour ne pas vous le cacher. Donc voilà, c'est dans cet état d'esprit, un peu épuisé, les auteurs aussi, de grande sérénité, de bonheur, de retour extrêmement positif. Comme vous le savez, cette année est un peu particulière, puisqu'on est dans la situation du mouvement des auteurs en colère. On a remarqué qu'ils étaient beaucoup plus en dialogue qu'en colère ici, ce qui me paraît extrêmement important. Le dialogue a pu se nouer comme il l'est depuis des années, et comme vous le savez peut-être, regardez le site internet du festival, vous y trouverez une déclaration longue de la ville, pour ça qu'elle n'est pas signée. Elle engage la ville, et ceux qui étaient à la remise des prix hier ont entendu le maire, je l'avais déjà annoncé, mais voilà, là c'était officiel, annoncé que nous avons avancé cette année encore sur la rémunération des auteurs, qui a augmenté par rapport à l'année dernière, clairement, mais l'année prochaine, nous serons à la rémunération de l'ensemble des interventions des auteurs aux Imaginales. Je pense que c'est une avancée positive pour les auteurs. Ça nécessite, bien sûr, on avait d'ailleurs souligné ces points, un minimum de souplesse, un minimum de dialogue, parce qu'évidemment, nous ne pourrons plus inviter tous les ans des auteurs qui sont là depuis 17 ans, parce que c'était une habitude, et que comme les conférences n'étaient pas rémunérées ou peu rémunérées encore, eh bien le budget le permettait. Aujourd'hui, ça sera aussi en liaison avec les livres, avec les nouveautés, avec les coups de cœur du festival. Ça va nous obliger à quelques modifications, mais vous ne le verrez quasi pas, puisque vous retrouverez le même nombre de cafés littéraires, le même nombre de débats, le même nombre de choses passionnantes, et on a des idées nouvelles qui devraient arriver. Nous allons ensemble faire cette transition. Et puisqu'on parlait rémunération, ma première question au coup de cœur du festival, que j'ai évidemment beaucoup de bonheur d'avoir à mes côtés, parce qu'il a contribué à illuminer ce festival de son humanité, la qualité de ses livres et de ses nouvelles. Je viens d'avoir, et ce n'est pas pour lui faire plaisir, un tweet qui est tombé tout à l'heure et qui disait qu'il venait de lire la première nouvelle, c'est-à-dire la première nouvelle de l'anthologie, celle de Jean Noros Kelsokoro, et il disait « magnifique ». Je crois, quel beau résumé. Donc ça démarrait bien cette entrée dans l'anthologie que je vous incite à acheter, les dernières qui sont encore présentes ici. Jean-Laurent Del Socorro, à part pour l'argent et les rémunérations au festival, pourquoi écrivez-vous?
Je dis souvent, écrire un livre ou dire je vais écrire quelque chose et j'ai l'impression que ça mérite d'être partagé avec tous. Je pense qu'au fond de tout auteur, il y a un peu de vanité de se dire quand même, je peux faire mieux ou je mérite d'être entendu. La première chose, je pense, c'est effectivement, j'ai envie de communiquer quelque chose avec les gens, ce que j'aime. Et puis, assez modestement, on le voit avec ma nouvelle dans l'anthologie des Imaginales, qui est sur une personnalité historique, Ada Lovelace, qui était comme la première programmeuse de l'histoire, avec Boudica Boadicé, qui est une reine qui a réellement existé et qui est une figure féminine importante de l'histoire. Et ben, à mon échelle, modestement, auprès de mon public, ben, c'est de dire, voilà, elles ont existé, elles sont importantes, c'est rajouter une pierre pour faire avancer aussi ce combat-là et d'autres encore, j'espère.
Jean-Claude Duniac, vous n'êtes pas écrivain temps plein, mais un grand écrivain néanmoins français de science-fiction et de fantasy, quelques autres nouvelles, mais pour l'essentiel science-fiction fantasy, quelques nouvelles de littérature générale, quelques nouvelles de fantastique, et puis des romans évidemment, dont un en obtenu en collaboration avec notre regretté ami Ayerdal le grand prix de la Tour Eiffel, le prix de science-fiction, Tour Eiffel de science-fiction, voilà, et d'autres prix que vous avez obtenus, le GPI, etc., etc. Vous en êtes maintenant le juré, comme ça vous ne l'aurez plus, les autres collègues seront tranquilles. Et vous avez aussi obtenu, je crois que c'est l'an dernier, si ma mémoire est bonne, le prix de la meilleure nouvelle de fantasy de l'année aux Imaginales. Donc vous êtes gâté, vous êtes reconnu, vous êtes aimé, vous en plus avez le sens de l'humour et vous savez amuser nos festivaliers et les autres auteurs, vous êtes aussi connu pour ce talent-là. Vous n'avez pas fait le stand.
Il y a quelque chose à me demander. Hein. Je ne sais pas
vous
quoi.
Vous n'avez pas fait le.
Quelque chose à me
vous
demander.
Pas fait. Non, je viens juste en vacances à Toulouse, mais bon, ça, c'est un autre débat. Ça, on en parlera en privé.
Tu es la bienvenue comme d'habitude. Tu le sais. Bon, puis le pas. Chèque t'attendra. Enfin, il n'y a aucun problème. Tout va bien.
Donc, Jean-Claude Dugnac est ce qu'on appelle un semi-professionnel. C'est-à-dire qu'il en a toutes les qualités des professionnels. Il publie professionnellement. Il écrit professionnellement. Il a le talent de n'importe quel professionnel à temps plein. Mais pour des raisons qui lui appartiennent, il a fait le choix de conserver le métier qu'il exerce encore pour quelques mois, c'est-à-dire un métier de cadre supérieur plus dans l'aérospatial, pour ne rien vous cacher. Donc, on a compris, même s'il est favorable à la rémunération des auteurs en salon lorsqu'ils interviennent dans les débats, c'est pas pour l'argent qu'il écrit. Alors, Jean-Claude Dugnac, pourquoi écrivez-vous ?
C'est très méchant de me présenter comme ça parce que ça, c'est évidemment tendancieux et totalement incomplet, mais d'accord, ok, je prends. Alors pourquoi est-ce que j'écris ? J'écris parce que depuis que je suis tout petit, je suis tombé dans les livres et que la réalité est une narration pour moi. Le monde est une narration. Rien n'existe si je ne peux pas le raconter sous la forme d'une histoire. S'il n'y a pas une façon de le décrire, une façon de le mettre en situation, ça n'existe pas ou ça n'existe que de manière très floue à l'arrière-plan de ma réalité. Tandis que s'il y a une histoire, s'il y a un certain nombre de fils narratifs qui s'entremêlent, c'est solide. Donc j'écris aussi pour donner de la solidité au monde, j'écris pour me donner de la solidité à moi, c'est-à-dire pour être sûr que moi-même j'existe sous la forme d'une histoire. J'écris ma propre histoire également. J'écris dans ma vie, même si je ne la raconte pas dans mes livres, ma vie est une narration que je mène jusqu'au bout et que j'espère continuer de mener encore longtemps. Et je crois qu'il n'y a pas d'autre raison, parce qu'à un moment donné, c'est tellement cette idée de narrer, cette idée de partager, c'est tellement entrelacé à ce que je suis que je ne sais pas faire autrement. Je ne sais pas ne pas partager. Ça n'a pas de signification pour moi.
Vous êtes Patrick Senecal, un écrivain canadien, écrivain québécois de langue française. Vous avez néanmoins une conception et une vision nord-américaine, y compris du professionnalisme, de la rémunération. On travaille parce qu'on aime les livres, mais aussi pour gagner de l'argent. Vous avez des best-sellers et pas qu'un, donc vous gagnez, je pense, décemment votre vie. Donc vous, il n'y a aucun doute, vous n'écrivez que pour l'argent, Patrick Senecal.
Évidemment, évidemment. En fait, la raison pour laquelle on écrit, c'est curieux parce que je pense que ça change. En tout cas, dans mon cas, ça a changé en vieillissant et en écrivant de plus en plus de livres. Au début, c'était un peu bête. J'écris parce que j'aime ça, j'aime raconter une histoire. Après ça, un peu plus artiste comme réponse, j'écris parce que j'ai pas le choix, parce que c'est plus fort que nous, parce que si on n'écrit pas, on va devenir fou. C'est pas tout à fait faux, mais c'est un peu romantique aussi. Et puis, à un moment donné, je me suis rendu compte que... et là, c'est ma blonde psychologue qui m'a aidé à voir clair là-dedans. Ça peut pas nuire, hein, quand même. Et elle dit, tu parles beaucoup de tes peurs dans tes livres, et je crois que c'est vrai, et que ça me donne un peu l'illusion de les contrôler. Et suite à ça, je me suis rendu compte, de plus en plus, mes romans parlent du chaos, et je pense que j'écris pour me donner l'illusion de contrôler quelque chose. Parce que ce que j'ai très peur, j'ai peur de la mort et je sais que j'ai aucun contrôle là-dessus. Et je pense que quand j'écris un livre, ben, l'instant d'une histoire, en tout cas, je contrôle un monde, je contrôle la vie de personnage et ça me donne l'illusion peut-être en ricochet de contrôler mes propres peurs. Ouais.
Il y a quand même un peu de cruauté dans vos histoires, Patrick Senecal. Vous nous confiez, je crois que c'était avant-hier, que vous aimiez beaucoup les caves, ce qui n'est pas nécessairement rassurant. Je ne pense pas que je ne vous aurais pas rencontré dans un festival littéraire, je vous aurais accompagné à la cave. On ne sait jamais si on a affaire à un écrivain ou un tueur en série. Il y a d'ailleurs pas mal de tueurs en série dans vos livres, en tout cas un certain nombre. Donc la vraie question, c'est est-ce que vous voulez nous emmener tous à la cave ?
Non, mais je sais que les lecteurs aiment visiter les caves, dans le sens de leur propre cave intérieure, leur propre sous-sol, leur propre placard. Je crois que c'est drôle parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a dit dans un salon du livre au Québec, vous êtes vraiment fucké. Hein? Fucké au Québec, ça veut dire tordu, complètement, totalement fou, bizarre. Ça, dans mon cas, je l'ai pris comme un compliment. Donc, il dit, vous êtes vraiment fucké. Hein? C'est fucké ce que vous faites. Ben là, je dis, ben merci beaucoup, on parle un peu. Je dis, en passant, vous aimez ce que je lis? Vous aimez ce que j'écris? Il dit, ah oui, beaucoup. Ben, je dis, ben vous êtes assez fucké vous-même, finalement. Alors, quelque part, ça joue à deux, ça. Je pense que le lecteur, oui, veut être en danger, mais pas vraiment. Il veut qu'on lui prenne la main, qu'on l'amène dans des zones sombres. Mais il sait très bien que quand le livre va se refermer, il est dans son fauteuil chez lui, tranquille. Donc, aller dans une cave, ça va, tant qu'on sait que quand on ferme le livre, on remonte rapidement, finalement.
Vous êtes pourtant normalement, en tout cas, le reste du temps professionnellement un garçon sérieux, Jean-Claude Duniac, mais vous faites un métier sérieux. Mais néanmoins, après avoir écrit des romans de science-fiction avec une base scientifique sérieuse, vous vous êtes mis à écrire de la fantasy. C'est une des raisons pour laquelle on vous invite régulièrement. Et vous nous avez raconté une histoire de troll, l'instinct du troll. Votre dernier livre, si je ne m'abuse.
Non, le dernier, c'est l'enfer du troll.
C'est l'enfer du troll et l'instinct, c'était le premier. Voilà,
et exactement. Le prochain s'appellera l'empire du troll.
Ça, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a une allusion littéraire. Mais bon, reprenons.
C'est possible.
Reprenons. Pourquoi ce personnage de troll qui, y compris, est confronté dans le premier volume à des histoires de notes de frais, ça on sent du vécu.
Ah, on sent du vécu. Et le fait est qu'à un moment donné, au cours de son œuvre, on a des personnages dans lesquels on se sent bien. Des personnages qui sont extérieurs à soi, mais dont on se dit, celui-là, c'est mon semblable, mon frère, comme disait l'autre. J'ai eu comme ça mon jongleur dans Le jeu des sabliers, en 86. J'ai eu, comment ça s'appelle, Closter. Alors là, par contre, c'était écrit au jeu, c'était volontiers. Comme ça, c'était l'histoire d'amour entre mon épouse et moi. Bon, histoire d'amour que je réécrirai de la même façon 30 ans plus tard. Ensuite, il y a eu une espèce de rocker complètement cinglé qui s'appelait Amundsen, que tu as bien connu. Et le troll est cette espèce de personnage bourru, âgé, il a quand même une ère géologique de plus que nous, et qui a vécu plein de choses et qui a appris une seule chose dans sa vie, c'est que, un, c'est plus compliqué que ça, et deux, j'y comprends rien. D'accord. Et trois, il va falloir s'en débrouiller quand même. Et à partir du moment où on a ça, eh ben, on a des tas d'aventures dans lesquelles, oui, basé sur ce qu'on peut appeler son expérience, basé sur le fait qu'autour de lui, les choses sont en permanence en train de partir en vrille, ben lui, il a l'avantage, il est lourd, il est lent, il n'est pas très malin, mais il constitue une espèce d'îlot de stabilité qui peut-être ramène le monde à de justes proportions qui sont les siennes. Voilà.
On a choisi pour terminer ces imaginales dans ce café littéraire, Alice comme livre pour vous, Patrick Sedekal. On aurait pu prendre n'importe quel autre, Oniria, qui vient d'être sorti en grand format aux éditions à lire, qu'on peut trouver aussi. Alice, c'est quand même une référence culturelle. Alors, est-ce que vous écrivez parce que vous avez envie de retravailler les mythes et les grands livres et les grandes séries culturelles, les grands personnages? Est-ce que vous avez quelque part envie de vous frotter aussi aux grands auteurs, comme on dit? Alors que, quelque part, pendant tant d'années, nos littératures ont été considérées, ça n'est plus le cas, sauf par quelques-uns, comme des littératures qui ne valaient pas les autres.
C'est quand même un cas à part, Alice, dans mon œuvre. Normalement, j'aime bien inventer mes histoires, moi tout seul, pas dire je vais revisiter certains mythes ou certains trucs. Mais Alice, c'est une histoire qui me poursuit depuis l'université, en fait, depuis que j'ai vu le dessin animé de Walt Disney, que j'avais beaucoup aimé. D'ailleurs, c'est très curieux, c'est un dessin animé, de la part de Walt Disney, c'est assez incroyable ce qu'il y a là-dedans. Aujourd'hui, je pense qu'il ne ferait plus ça. C'est quand même clair que le ver à soie, c'est de l'opium dans le dessin d'Alice au Pays des Merveilles de Walt Disney. Elle prend des champignons, elle vient grande. C'est quand même curieux que Walt Disney ait accepté de faire quelque chose d'aussi subversif. Mais cette histoire-là, et quand j'ai lu l'histoire de Carol à l'université, j'ai été obsédé par ça, et je ne sais pas trop pourquoi, je trouvais qu'il y avait quelque chose de très subversif, même pour les enfants, et j'ai eu envie d'y aller d'un point de vue d'adulte. Et au fond, ce n'est pas si original, parce qu'il y a plein de gens qui ont été inspirés par Alice. Il y a eu des chansons, des rock bands qui ont fait des chansons à partir d'Alice, des jeux vidéo. Donc, il y a quelque chose dans cette histoire pour enfants-là qui est complètement bizarre et qui inspire tant de gens. Mais j'ai pas l'intention de faire ça avec d'autres classiques, d'autres. Non, je veux pas en faire une marque de commerce, de revisiter tous les contes. Non, non. C'est quelque chose à part. Et au Québec, c'est un livre à part aussi, là, dans. Pour mes fans, c'est quelque chose de très, très particulier, ce livre-là. Alors, manifestement, j'ai touché quelque chose dans l'inconscient des gens, j'imagine, avec ce livre-là.
Jean-Laurent Del Socorro, on le disait dans un autre café littéraire, vous êtes avant tout un écrivain de fantaisie historique. Vous êtes passionné par tous ces thèmes. Le premier, Devant une colère, celui qui vous a permis d'avoir le premier prix, le prix Elbakin, si ma mémoire est bonne. Et ce premier roman parlait de la fin du XVIe siècle et donc juste au moment où Henri IV devient roi de France et où encore un certain nombre de catholiques très agressifs refusent son autorité. C'est le cas à Marseille avec cette étrangeté qu'un des consuls de Marseille veut faire une république. Donc c'est à la fois quelque chose de très douteux, c'est une république catholique, et à la fois en termes politiques, ce serait plutôt quelque chose qui apparaîtrait comme progressiste. Donc c'est quand même très ambigu cette affaire. Et ensuite, vous avez Boudica, qui est la grande révolte de la reine celte au 1er siècle après Jésus-Christ contre l'Empire romain, et vous travaillez actuellement sur un roman qui va parler de la guerre de sécession. Or, je vous ai sollicité, c'est la règle du jeu du coup de cœur, pour participer à l'anthologie aux éditions Mnemos Créatures. C'est notre anthologie annuelle du festival. Votre nouvelle ouvre l'anthologie. C'est un hommage, un clin d'œil à Frankenstein, clairement, et un hommage à la première femme programmatrice de l'histoire. Avant, le véritable ordinateur, c'est en quelque sorte l'annonce de l'informatique. C'est quand même un personnage assez fascinant, un personnage historique. Et c'est donc une nouvelle de science-fiction, une sorte d'uchronie. Et pourquoi, alors que vous auriez pu très bien nous faire une histoire de fantasy, avez-vous choisi de nous envoyer pour Créature une nouvelle de science-fiction? Jean-Laurent Del Socorro, est-ce que vous allez bientôt changer de genre ou est-ce qu'en fait vous êtes multicarte et que ce qui vous intéresse c'est l'écrire, c'est l'imaginaire et donc la science-fiction comme pourrait l'être le fantastique et comme l'est aujourd'hui la fantasy?
Pour l'instant, je suis auteur de fantasy historique parce que, rappelons-le, je n'ai que deux livres. Je pense que, notamment sur les premiers textes, on va vers sa facilité. C'est des choses que j'aime bien. C'est des choses où je me sens en confiance. C'est pour ça que je suis allé là-dessus. Quand j'ai réfléchi à une nouvelle dans l'anthologie Créature, justement, je me suis dit, on va essayer de, entre guillemets, de prendre des risques. C'est-à-dire de dire d'aller pas sur la facilité. Effectivement, je me suis dit, est-ce que je pourrais faire une nouvelle de fantasy historique? Non, j'avais envie de traiter les choses différemment. J'avais envie déjà de, derrière le terme créature, j'avais envie de ne pas parler de monstre, mais de le prendre dans un sens plus large. Et je me suis essayé sur le style à la fois du steampunk et de l'uchronie. Et ça me permettait aussi de rejoindre quelque chose qui est toujours... cher chez moi, c'est à la fois rendre hommage à une personnalité féminine historique, ici Ada Lovelace, qui est maintenant réhabilitée dans le milieu scientifique et de l'informatique, et j'ai pu me rendre compte aux Utopiales en demandant aux gens qui venaient me présenter l'anthologie, est-ce que vous connaissez Ada Lovelace ? Une personne sur 10 me dit oui, bien sûr, les 9 autres ne connaissent pas, donc il y a encore du travail pour qu'elle soit connue, il faut quand même... rendre hommage à cette dame qui écrit le premier programme informatique de l'histoire. Le premier geek était une geek, ce n'est pas rien. Et donc ça, c'était le premier point. Et deuxième point, c'est que j'ai trouvé une magnifique occasion de m'essayer au steampunk. Et sur la question, est-ce que j'irai sur la science-fiction ? Oui, la réponse est oui. Sauf que, j'y vais pas à pas parce que j'ai l'impression que c'est plus exigeant, j'ai l'impression que c'est plus dur pour moi. J'ai l'impression qu'il y a, notamment en francophone, de très grands talents qui ont monté le niveau, même si le niveau de la fantasy est très haut, je pense que le niveau de la science-fiction est encore plus exigeant pour les lecteurs. Et voilà, j'y vais avec pas à pas et comme le reste, j'espère avec humilité. Je viens à la fantasy, mais j'y vais tout doucement. Pardon, à la science-fiction, mais j'y vais tout doucement.
Et vous, Jean-Claude Duniac, vous êtes toujours dans le domaine de la fantasy? Non, en réalité, vous êtes avant tout au départ un écrivain de science-fiction. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser, comme écrivain, à la fantasy, et y compris à faire de la fantasy humoristique?
Alors, c'est le paradoxe, c'est oui et non. Je ne suis pas un écrivain de science-fiction depuis le début. Mon premier roman qui s'appelait Le jeu des sabliers est ce qu'on appelle de la science fantasy, c'est-à-dire il y a des tropes de fantasy dans un univers qui pourrait être un univers de science-fiction, des planètes, des trucs, mais en même temps des gens qui sont des incarnations de cartes de tarot, une guerrière, etc. Donc tout ça, c'était pas censé se faire. Mais comme à l'époque, moi, je suis totalement aveugle aux frontières, donc j'ai mélangé tout ça parce que ça me paraissait bien. Et je veux dire, quand on regarde le cycle de Pern, par exemple, d'Anne McCaffrey, qu'elle considère comme de la science-fiction, qui comporte des dragons, tout un tas d'éléments de fantasy. Donc on peut jouer avec ça. Bon. Ensuite, j'ai écrit de la science-fiction humoristique, Rolover Amundsen. J'ai écrit de la fantasy très noire, La guerre des cercles. Qui continue, qui est un roman que je suis en train, j'ai fini le deuxième tome et j'essaie de faire l'équivalent du troisième. Tout ça, ça existe. Donc, dans mon esprit, il y a toujours eu tout ça. C'est juste que j'ai un esprit, enfin, je pratique la science dans mon métier. J'ai un esprit entre guillemets scientifique parce que c'est comme ça que j'ai été élevé, c'est comme ça que j'ai appris. Mais j'ai aussi énormément de choses qui m'intéressent vis-à-vis de l'art, vis-à-vis de, je dirais, de la manière dont les sociétés se comportent. Et quelquefois, j'ai envie de traiter un problème traitant d'intelligence artificielle, par exemple, mais ça apparaît comme une histoire de fantasy. Et d'autres fois, je me dis, tiens, j'ai un problème d'art et je le traite comme une histoire de science-fiction. Après tout, j'ai écrit une histoire qui était un hommage à Ballard, où il y avait quelqu'un qui était une artiste qui essayait de pousser les appareils électriques et les appareils ménagers quotidiens à aller jusqu'à l'explosion, jusqu'à l'agression de l'homme pour en faire des œuvres personnelles. Il y avait à un moment donné une machine à laver qui avait éjecté son tambour comme si elle accouchait et donc on exposait la carcasse de la machine à laver comme ça. Donc, je peux pas dire que j'ai pris une décision. D'abord, les histoires me viennent et je les raconte. Je ne décide pas, tiens, ça va être une nouvelle de SF. L'histoire arrive. Bon. Et ensuite, j'ai toujours l'impression d'avoir tout fait dès le début. Quand tu prends une histoire comme Autoportrait, où il y a quelqu'un qui s'expose au musée tranche par tranche et qui commence par son pénis, je pense que tu en as un certain souvenir. Hein. C'est grâce à Stéphanie ici présent que j'ai été photographié dans Guépier. Bon, je précise pour ceux qui sont intéressés que j'étais totalement habillé, donc que ça n'a rigoureusement aucun intérêt. Mais j'ai quand même été photographié dans Guépier, ce qui m'a permis, à partir des années 85, quand j'avais une réunion emmerdante, de dire, moi qui ai été photographié dans Guépier, et en général, tout le monde me regardait d'un air bizarre, c'était formidable. Bon. Mais ça, c'est un texte dont on ne sait pas s'il appartient à la science-fiction, s'il appartient à l'onirique, s'il appartient à la fantasy. Et puis, on s'en fout d'une manière mais absolument phénoménale. C'est une histoire. Les étiquettes ne collent pas très bien dessus. Et ça me va très bien. Je veux dire, j'ai pas que je sois contre les étiquettes. Quand j'achète des petits pois, je préfère avoir des petits pois sur l'étiquette. Mais on peut très bien avoir des trucs légumes mélangés. Et puis, je me démerde avec ça. Voilà, je fais des légumes mélangés. Mon idée, c'est vraiment d'écrire des minestrones.
Ça commence ce texte, j'en ai un souvenir, parce que c'était le premier recueil de nouvelles. J'ai découvert, je ne connaissais pas personnellement évidemment Jean-Claude Duénac à l'époque, et j'en ai fait une recension dans trois revues différentes. C'est-à-dire que le livre m'avait plu, et le texte démarrait par « Le jour où Doris fait don de son pénis ». Dorian, oui, comme par hasard, voilà, rappel, Dorian fit don de son pénis au musée de la ville, etc. Et la nouvelle continue. Voilà. Absolument. J'étais le seul à l'accompagner. C'est un très très beau texte. C'est un texte aussi sur le musée, évidemment. C'est un texte sur le corps, c'est plein de sujets, et c'est un texte extrêmement étrange et qui à l'époque avait beaucoup frappé les lecteurs, et je crois qu'il a attiré l'attention sur le talent de Jean-Claude Duénac, sur sa façon d'avoir une sorte de froideur clinique. Certains d'ailleurs dans le monde lui avaient reproché à l'époque. Je crois qu'avec Le Troll, il nous montre qu'il est parfois bien loin de la froideur clinique. Patrick Senecal, qu'est-ce qui fait qu'on choisit le fantastique, l'horreur, la terreur? Qu'est-ce qu'on apporte au lecteur quand on choisit ces genres-là, qui parfois, alors évidemment, ont été réhabilités par le grand Stephen King et plein d'autres, mais qui, à une certaine époque quand même, étaient considérés, si on prend la hiérarchie des genres, comme le pire des trois genres de l'imaginaire, alors que curieusement, ils faisaient quand même écho à la grande transition du fantastique, qui est quand même ce qu'il y a de plus institutionnel dans la littérature française et européenne.
Je crois qu'une des raisons pourquoi l'horreur ou le fantastique est souvent méprisé, c'est parce que c'est il faut bien admettre que c'est sans doute le genre où c'est le plus facile de faire n'importe quoi, où c'est le plus facile, en fait, de reprendre des clichés et de les répéter. Je veux dire, on peut tous écrire un film d'horreur en 10 minutes, là. Ça sera pas bon, mais tous les ingrédients vont être là. La courbe dramatique va être là, les clichés vont être là. C'est extrêmement facile d'écrire des scènes où on tue des gens, où on égorge des gens. Ce qui n'est pas facile, c'est de les rendre crédibles, c'est de savoir la limite jusqu'où on peut aller avant que ça devienne grotesque, à moins qu'on veut que ça soit grotesque, et de donner un sens. Mais bon, faire du carnage pendant 500 pages, c'est à la portée de n'importe qui. Donc, je pense que c'est pour ça que ce genre-là a été longtemps snobé, parce que oui, il y a beaucoup de n'importe quoi. Ensuite, moi je suis d'accord avec Jean-Claude, dans le sens que les étiquettes, ça m'ennuie un peu aussi. Au Québec, on dit souvent que je suis le maître de l'horreur. Et je commence un petit peu à en avoir marre de ça, parce qu'il y a certains romans que je considère que j'ai fait qui sont pas de l'horreur, en fait. Le vide, pour moi, c'est pas de l'horreur. J'ai écrit un roman qui s'appelle aussi Fin, c'est pas de l'horreur. L'horreur, pour moi, c'est plus un moyen, c'est plus un ton qu'un genre. Moi, je dis que je fais du roman noir, et je suis d'accord dans le sens que je choisis pas non plus ce que j'écris. J'ai une idée, et bon, ça donne que... Ah ben oui, tiens, c'est violent, hein? Il y a beaucoup de violence, j'y échappe pas. Je me rappelle Les 7 jours du Talion, qui est un homme qui se venge de l'assassin de sa fille. Je m'étais dit, tiens, je vais écrire un roman dans lequel... Il va lui parler, il va essayer de discuter avec le tueur de sa fille, il va le tenir prisonnier, il va lui parler pour essayer de comprendre. Ils vont juste se parler. Alors je commence à l'écrire et puis à un moment donné, je dis, bon, ben, ça serait quand même bien qu'il est en colère sur le coup, il va lui péter un genou, bon, juste un genou quand même. Alors paf, il pète un genou, ça va lui faire du bien. Bon. Et là, le lendemain, je me dis, ben, il peut lui péter l'autre aussi, hein, après tout. Ça. Et là, je me suis dit, ah, ben, ça serait bien qu'il lui parle jamais, parce que la pire torture, c'est d'être incapable de parler à l'autre. Alors finalement, ça a complètement changé l'intention que j'avais, parce que je me suis rendu compte en faisant le plan que, oh, le naturel revient au galop. C'est pas que je veux faire de l'horreur, c'est pas que je veux que ça soit violent, mais je me rends compte que l'histoire que je veux raconter, ces scènes de violence-là, ont leur utilité. Enfin, j'espère qu'elles les ont. Et ceux qui aiment ce que je fais, c'est parce qu'ils croient qu'elles les ont. Mais c'est moins méprisé maintenant. Parce qu'au Québec, le genre de l'horreur, du roman noir, moi, je considère que je fais du roman noir. Je pense que maintenant, il y a certains milieux qui, de plus en plus, considèrent que c'est une littérature tout à fait qui est valable et qui se vaut pour elle-même. Et même dans les universités québécoises, maintenant, depuis quelques années, il y a des cours... et qui ne s'appelle pas paralittérature, là, un terme que je déteste, mais qui s'appelle, qui observe la société à travers des films ou des romans d'horreur. Ici, je ne sais pas. Mais donc, pour le Québec, il y a de l'espoir pour le genre, quand même.
Y a-t-il des para-universités? C'est un autre débat. Jean-Laurent Del Socorro, quelle est votre formation avant d'avoir envie d'écrire comme ça et de vous mettre à écrire et à publier? Vous n'êtes pas un historien pourtant. Vous avez voilà, la question que je me posais, c'est d'où venez-vous? Pas seulement pourquoi écrivez-vous? Peut-être que ça répond en partie à la question pourquoi écrivez-vous?
Alors, moi, je suis de formation scientifique. Alors, je détiens un objet de collection qui s'appelle le DUG, qu'aujourd'hui serait l'équivalent d'une licence 2. Je me suis tourné ensuite vers les études agricoles. Je suis ingénieur agricole spécialisé en développement rural. J'ai un petit peu travaillé dans ce domaine-là, mais je me suis vite réorienté en administrateur culturel et financier pour des structures de théâtre, pour des friches. J'ai travaillé à la Friche Belle de Mai à Marseille, dans des écoles de musique et dans des compagnies de cirque. En parallèle de tout ça, j'ai aussi le diplôme du conservatoire d'art dramatique. Donc j'étais un petit peu comédien aussi en parallèle à une époque. Et tout ça a fait un petit peu que ça bifurque. Et à un moment, voilà, je me suis réorienté encore vers assistant d'édition. Métier dans lequel je suis depuis maintenant 2-3 ans. Pour en revenir à l'écriture proprement dite, voilà, c'est un parcours assez atypique. Je pense que ça a été un combat. Je pense qu'avec le recul, en fait, le fait d'écrire, tout simplement, ça a été très égoïste. Je suis aussi extrêmement dyslexique. J'étais un scientifique, j'étais dyslexique. Il y avait un peu un combat avec moi-même pour dire non, je peux le faire, en fait. Voilà. Toutes les limites qu'on pouvait me dire, c'était aussi un premier combat de dire non, je peux le faire, je peux écrire une nouvelle. Voilà, j'ai cravaché, je me suis remis à la chaise, j'ai eu des textes très mauvais au début, des nouvelles qui n'ont pas marché, quelques-unes qui ont été repérées, qui m'ont mis en confiance, jusqu'à un premier texte. Et au moment, je me suis dit voilà, Je tente un texte plus long sur un roman et j'ai eu la chance qu'il soit publié, c'était Royaume de vent et de colère. Donc je pense qu'avec le recul, je m'en suis pas du tout rendu compte à ce moment-là. Je pense qu'il y avait en plus de l'envie de partager quelque chose, il y avait un peu cette victoire personnelle de se dire j'étais un scientifique, j'étais loin de l'écriture, j'étais dyslexique et c'était quelque chose qui m'a handicapé pendant très longtemps. En fait, je crois que c'était mon... voilà, j'avais envie de gagner ce combat en fierté personnelle.
Jean-Claude Dugnac, quand on écrit des nouvelles comme vous l'avez longtemps fait, peut-être que vous êtes au départ un nouvelliste. Le roman, vous y êtes venu après. Est-ce que c'est la même forme d'écriture ? Est-ce que c'est la même forme d'envie d'écrire, ou est-ce que pour vous, texte court, texte long, ça n'a aucune importance et c'est le même métier?
C'est le même métier qui est d'être écrivain, c'est-à-dire de faire passer de l'information avec des mots, mais évidemment les méthodes ne sont pas du tout les mêmes, les techniques et les approches ne sont pas du tout les mêmes, et le rapport au temps ne sont pas du tout les mêmes. Une nouvelle s'écrit en relativement peu de temps, et le travail d'écriture consiste à plutôt prendre un diamant, qui est son idée, mais qui est un diamant brut, et à le frotter dans tous les coins pour qu'il brille et qu'il ait le plus de facettes qui va bien. Alors qu'un roman, c'est une espèce de coulée de boue. Il y a des gens d'abord, il y a plein de gens qui débarquent. Et il faut se dire aussi qu'on va vivre avec ces gens-là dans sa tête pendant un an, quelquefois un an et demi, quelquefois deux. Et il faut en avoir envie. Je veux dire, c'est... Alors qu'une nouvelle, vous en faites un petit peu le tour en une semaine, éventuellement deux semaines. Un roman, donc, on écrit sur la durée et on écrit en étant extrêmement attentif à toutes les possibilités de déviation et de débordement que n'importe quel personnage a envie de faire. C'est-à-dire, vous êtes le moniteur d'une espèce de colonie de vacances, il faut d'une fois les laisser faire ce qu'ils veulent, et en même temps, il faut s'arranger pour les ramener à la maison ou à l'autobus à l'heure qui va bien, quoi. Donc, ce n'est pas le même métier. Non, ça n'a rien à voir. Un est un bijoutier, l'autre est un moniteur de colonie de vacances, quoi. Mais en fait, j'ai commencé à écrire des romans assez tôt, puisque mon premier roman était un recueil, enfin, mon premier livre était un recueil, mais mon premier roman que j'écrivais à ce moment-là a commencé pratiquement 3 ans après. L'avantage des nouvelles, c'est que ben, quand on ne se prend pas pour un écrivain, et il m'a fallu très longtemps pour me prendre pour un écrivain, ben, une nouvelle, c'est juste un truc dans lequel on se dit ben, « Ok, on fait une petite histoire, vous allez voir, c'est sympa. » C'est un peu comme on raconte une histoire drôle à la sortie du repas, quoi. On se dit « Je peux le faire. » Bon, on le fait, on publie, puis on se dit « Tiens, j'en ai publié, c'est marrant, je continue à en faire. » Mais ça ne va pas plus loin que ça. Au point d'ailleurs que quand j'ai rencontré Elisabeth Gilles, qui a été mon éditrice du premier recueil, je lui ai dit « ça vous intéresse ?» Elle m'a dit « j'aime beaucoup vos nouvelles, faites-moi un roman ». Je lui ai dit « bon, je suis complètement nul, je suis incapable de vous faire un roman. Mais par contre, j'ai quelques histoires, est-ce que vous voulez un recueil ?» Elle me dit « ben, montrez-moi ». Je lui en ai envoyé un certain nombre, elle m'a renvoyé une longue lettre où elle me disait « celle-là j'aime bien, celle-là j'aime pas, celle-là elle est nulle, il faut la refaire, celle-là il faut la retravailler de telle et telle façon ». Et j'ai dit « bon, elle n'aime pas ce que je fais suffisamment pour faire un recueil ». Et j'ai tout mis dans le tiroir en me disant « bon, je vais continuer à écrire pour moi ». Et au bout d'un an, je l'ai revue en convention, elle m'a foncé dessus en disant « et alors, votre recueil ?» J'ai dit « mais vous l'avez refusé ?» Et alors elle m'a dit « vous êtes un con ». Enfin, elle m'a tout expliqué, elle m'a dit « je vous avais dit que j'avais celle-là, celle-là et celle-là, vous les gardez. Celle-là, je vous les enlevais puisque je les aime pas. Celles qu'il faut retravailler, vous les retravaillez, vous en rajoutez d'autres et vous me faites pour une proposition ». Je me dis « tiens, c'est vrai, j'avais pas vu comme ça ». Et donc je suis rentré à la maison, j'ai ressorti du tiroir un certain nombre de textes quoi, que j'avais, et puis je me suis dit « tiens, on peut essayer de travailler là-dessus », j'ai travaillé sur un machin, et elle m'a accepté mon recueil. Mais j'étais déjà en train d'écrire le prochain roman, qui était enfin, le premier roman qui était « Le jeu des sabliers ». Donc en fait, écrire, c'est écrire. Il y a une histoire qui tombe dessus, et mon premier roman m'est tombé dessus en 1 seconde et demie. Et je dis bien 1 seconde et demie, c'est-à-dire que j'ai la faculté de m'endormir, ce qui s'appelle instantanément. Maintenant, il m'arrive de me tourner dans mon lit pendant 4 à 5 secondes, mais à l'époque, j'éteignais la lumière avant que ma tête retombe sur l'oreiller, j'étais endormi, enfin, c'était un truc comme ça. Et un jour où je m'endormais à côté de ma copine, j'éteins, je m'endors, et je me relève, d'après ma copine, mais tong, je me relève, et je dis « nom de Dieu ». Et elle me dit « qu'est-ce qui t'arrive? Tu t'es fait mal ?» Genre, pour elle, il s'était passé 1 seconde et demie, quoi. Et en fait, je venais de m'endormir et de rêver la totalité du roman. Mais j'avais vécu la totalité du roman, 1 an et demi quand même. Et je n'ai pas répondu, je suis allé dans mon bureau, j'ai tapé tout le plan du roman, les fiches des personnages, j'ai fait 15 pages de notes, et je suis rentré me coucher en lui disant « je viens de rêver un truc absolument extraordinaire, il faudrait que je l'écrive ». Et je m'endors. Et le lendemain, elle me réveille, elle me dit « alors, le truc que tu as rêvé, c'est quoi ?» Et je lui dis « quel truc ?» J'avais complètement oublié. Et elle m'a dit « mais t'étais allé dans ton bureau ?» Alors j'y suis allé, je suis retombé sur mes notes, et tout m'est revenu. Et après, j'avais plus qu'à écrire. Tu vois ? Donc, quand l'histoire te vient, ben, elle te vient comme elle a décidé de te venir, quoi.
Patrick Senecal, les histoires vous viennent comme ça aussi parfois ?
Non, j'ai pas cette chance, non. ça serait.
Mon téléphone, vous pouvez lui dire
Ça serait bien de tout savoir comme ça. Non, moi, oui, c'est des flashs quand même. Ça peut être des flashs. La plupart des idées me viennent à un flash. Ça peut être un personnage, ça peut être une scène. Des fois, c'est une scène. Une scène vraiment du roman. Je ne sais pas encore à quoi je vais la raccrocher, mais j'aime la scène. Mon dernier, c'est ça. C'est une des premières scènes du roman qui m'est apparue. J'ai dit, ah, qu'est-ce que je fais avec ça? Des fois aussi, j'ai déjà écrit en réaction à quelque chose. J'étais en colère après quelque chose et j'ai réagi à ça. Les 7 jours du Talion, c'était ça. Les films américains de vengeance où on montre souvent le gars qui se venge de la mort de sa fille ou de sa femme, vous savez, genre le justicier, un justicier dans la ville, ou bon, tous ces films-là que je déteste profondément, où la vengeance est vue non seulement comme une bonne idée, mais en plus, ça marche. Ça calme. À la fin, si tu tues l'assassin de ton enfant, tu vas retrouver la sérénité et tout va bien aller dans ta vie. Moi, je ne crois pas à ça. Moi, je pense que c'est plus compliqué, l'esprit humain. Et les 7 jours du Talion, c'est une réaction à ce genre de film-là. Oui, mon personnage va se venger, mais finalement, est-ce que c'est une bonne idée? Puis bon, enfin, il y a une semaine pour se remettre en question. Ou alors, quand je vois quelque chose de très, très mauvais, je fais, mais pourquoi ça a été si mauvais? Mais il me semble que je préfère mieux. J'ai fait ça avec le film The Hostel, ici, je pense, ça s'appelle L'Auberge, ou je ne sais pas trop, qui est sorti il y a une dizaine d'années, où c'est trois imbéciles qui vont faire... Qui américains qui vont dans une ville pour aller baiser avec le maximum de filles et bon tout ça, et puis ils tombent dans une espèce de, ils se font appâter par des filles et se retrouvent dans un hôtel où les riches payent pour avoir le droit de les tuer, de les torturer. Et je trouvais que l'idée était très bonne. Je trouvais que c'était un peu tordu de trouver que c'est une bonne idée, mais je trouvais qu'il y avait quelque chose à explorer là-dedans. Pourquoi des gens sont prêts à payer pour torturer d'autres personnes? Moi, c'est ça qui m'intéressait. Sauf que le film, ce qui s'intéressait, c'était comment ces trois gars-là vont s'en sortir. Et évidemment, il y en a un seul qui s'en sort. Puis, donc, la psychologie des tortionnaires, on s'en fout complètement. Et moi, j'avais trouvé ça très mauvais, mais j'ai dit, quelle bonne idée de départ. Et ça m'a donné l'idée de Hell.com, qui est un site qui parle un peu de cette réalité-là. Donc, ça peut être plein de raisons pour ce qui m'amène à écrire, mais ça ne se fait pas d'un coup, ça ne se fait pas aussi vite que Jean-Claude. Mais oui, l'idée apparaît, puis si elle me reste dans la tête pendant 2-3 semaines, si elle continue à me hanter pendant 2-3 semaines, un mois, c'est parce que ça vaut la peine que je commence à faire un plan. Mais des flashs, on peut en avoir 2-3 par semaine, et au bout d'une heure ou deux, c'est parti. Au bout de 2 jours, c'est parti. C'est la preuve qu'une bonne idée ne fait pas nécessairement un bon roman. Alors, il faut attendre de voir si l'idée va... S'il va se passer, si ça va pousser, quoi. S'il va se passer quelque chose. Sinon, ça peut être... si ça part aussi vite que c'est arrivé, c'est parce que ça ne valait pas le coup. En tout cas, dans mon cas, à moi.
Jean-Laurent Del Socorro, vous, quand vous avez commencé à écrire, est-ce que vous avez commencé par un roman ou par une nouvelle?
Ah, moi, j'ai commencé par le plus court possible. C'était une nouvelle. C'était vraiment très, très court. Déjà, mes romans sont courts et c'est pas pour rien que mes nouvelles sont aussi presque des micro-nouvelles. Vraiment, ça a été... moi, je suis un ancien semi-marathonien. Ça a été le même principe. C'était un certain nombre de pages, puis on reprend. Un texte un peu plus long, un peu plus ambitieux, on reprend. On continue. Puis je me suis rendu compte au bout d'un moment que le format de la nouvelle... voilà, déjà, la nouvelle, paradoxalement, c'est... entre guillemets, le plus rapide en termes de temps à écrire, mais je pense que c'est l'exercice littéraire le plus complexe, parce que autant dans un roman, s'il y a des faiblesses, s'il y a des maladresses, on peut tricher et voir sur la globalité, réussir à cacher certains défauts, la nouvelle ne supporte pas la médiocrité. Donc je pense que je suis un assez médiocre novelliste. Sur le roman, je suis un peu plus à l'aise. Alors, peut-être avec une ou deux nouvelles qui sont bien et dont je suis assez fier, c'est l'eau de l'iceberg, hein. Vous voyez pas la pile de déchets et de textes qui sont partis dans la poubelle. Et puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte que j'arrivais pas à construire une histoire qui allait plus loin que la nouvelle. J'ai une écriture assez âpre, assez sèche. Et en fait, l'enjeu de Royaume de vent et de colère s'est dit, ok, j'ai pris du temps, j'ai pris un an. Je dis, voilà, j'ai un an devant moi entre deux travails, je vais me poser et je vais voir si j'arrive à courir mon semi-marathon, c'est-à-dire maintenant que je suis entraîné, j'ai fait 10, 20, 30 minutes, une heure, je peux faire le double sans doute, on va voir. Et en 3 mois, j'ai eu le premier jet de Royaume de vent et de colère. Et on est commencé par vraiment tout petit, hein.
On a l'impression, alors c'est peut-être pas la réalité de l'écriture de terrain, hein, mais on a l'impression, à vous lire, Patrick Senecal, que ça coule comme ça, tout seul, que vraiment, vous êtes capable de nous faire des gros romans. Bon, je vois Alice, mais j'en vois d'autres, hein, qui ne sont pas des petits livres, ce n'est pas des nouvelles, ce n'est pas des romans courts. Je sais que Jean-Laurent, pour le moment, est dans le format court. On verra si le troisième est à peu près pareil ou s'il ira sur peut-être un roman plus important en termes de matière, non pas de qualité. Vous, ça vous vient assez facilement, l'écriture, par comment, pourquoi écrivez-vous, mais comment écrivez-vous aussi?
Ben, oui, j'ai fait beaucoup de romans assez longs, effectivement. J'en ai fait des plus courts. J'ai fait quelques nouvelles. Les nouvelles que j'ai faites, c'était toujours des commandes. C'est quelqu'un qui m'approchait pour faire une nouvelle. Et puis, bon, j'en ai fait quelques-unes comme ça. Puis, des fois, je m'obligeais à aller dans des zones où j'étais jamais allé parce que je me suis dit, tiens, tant qu'à me faire commander quelque chose, pourquoi pas essayer quelque chose dans lequel je ne suis pas habitué. J'ai écrit des nouvelles. J'en ai écrit une qui était de l'humour. J'en ai écrit une autre qui était de l'érotisme. Alors, j'ai exploré d'autres zones. Oui, c'est-à-dire que non, c'est difficile d'écrire, évidemment. Là, on ne va pas prétendre qu'écrire, c'est facile. Mais j'écris quand même assez vite. Bon, ceux qui ne m'aiment pas diront que ça paraît. Ça, c'est une autre histoire. Mais personnellement, oui, j'écris assez vite. Et j'écris pas dans la souffrance. Moi, l'auteur qui dit, moi, l'écriture, c'est extrêmement souffrant. Je souffre quand j'écris. Je fais, ah bon, mon Dieu, c'est terrible. Pourquoi tu écris d'abord? Mais bon, oui, c'est difficile, mais ce n'est pas une souffrance. Et c'est pas écrire qui est le fun, c'est avoir écrit, en fait. Je trouve que quand tu as fini ta journée et que tu as écrit, on se donne tous des défis personnels dans notre journée. En tout cas, il y en a qui écrivent juste un nombre d'heures, il y en a qui disent « Ah, c'est un nombre de mots ». Mais si j'ai fini ma journée et que j'ai écrit tel nombre de mots, si j'ai écrit 2000 mots, si j'ai écrit 3000 mots, alors si j'ai écrit 3000 mots, là, je suis vraiment content. 4000 mots, bon, là, je ne tiens plus par terre. Mais j'aime avoir écrit. Mais pendant que tu écris, ben, c'est quand même du travail. Mais là, il arrive quelque chose d'épouvantable, je trouve, dans notre vie. En tout cas, pour moi, c'est Facebook. Et je trouve que Facebook, c'est l'ennemi le plus sournois de l'écrivain parce que, bon... Avant Facebook, on prenait des pauses quand on écrivait, mais on prenait une pause de 10 minutes. C'était vraiment une pause de 10 minutes. Maintenant, c'est plus possible de prendre une pause de 10 minutes sur Facebook. C'est pas vrai, là. On va pas sur Facebook pendant 10 minutes. C'est faux. Ceux qui croient ça, c'est pas vrai. On se fait des accroire, là. On y va une demi-heure et on pense qu'on est allé 30 minutes, mais ça fait une demi-heure. Mais tu y vas, puis t'arrêtes, puis tu déconnes ou tu te mets à te fâcher contre des gens. Moi, parce que moi, j'aime beaucoup chialer, comme on dit chez nous, sur Facebook. Alors là, je me suis dit, il faut que je me débranche de Facebook. Alors maintenant, quand j'écris, je tire mon routeur, je débranche mon routeur, parce que c'est vraiment... une grande distraction. Et je me suis posé la question, parce qu'au Québec, il y a beaucoup d'écrivains qui écrivent des courts romans et me disent, mais comment tu fais pour écrire des si longs romans? Ben, je me débranche de Facebook. Ça a peut-être l'air con, mais je pense que ça peut aider, parce que c'est vraiment un élément de distraction terrible, pour moi, en tout cas. Des fois, on pose des questions aux amis, puis ils nous donnent des réponses, ça c'est intéressant, mais ça peut être très, très... ouais.
Jean-Claude Duniac, on va arriver avec nos deux autres amis à la fin de ce café littéraire, tout doucement, presque comme un endormissement. Bon, c'est aussi une fin de festival. Et en fin de festival, on serait presque à s'assoupir dans son fauteuil, à écouter la voix des auteurs nous bercer. Vous ne voulez pas nous lire quelques lignes, Jean-Claude Duniac?
Si tu crois vraiment que je vais te bercer avec l'instinct du troll, tu vas te faire du mal. Alors, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je viens pour te mettre? Patrick. Tiens, je te ligne quelques lignes. Et puis toi aussi, après. Donc, mon héros, n'est-ce pas, mon troll, revient de mission. Alors, cette fois, il a accompli sa mission comme il faut, c'est-à-dire qu'il a ramené ses notes de frais. Et son stagiaire, bien entendu, lui dit « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Et il dit « Pourquoi moi ?» Et à ce moment-là, le troll lui répond « C'est toi qui choisis l'histoire dans laquelle tu vis, Cédric. Et c'est surtout toi qui décides comment la raconter. Mon rapport de stage ? Par exemple, les épopées, les drames ne sont que des conventions, des façons de décrire ce qui ne s'est peut-être jamais produit. Ce qui compte, ce sont les traces que l'on laisse, les paperasses et le respect des procédures. L'épopée n'existe que si on compose des chants pour la narrer et l'aboutissement d'une quête, c'est le paiement de la note de frais. » À toi de décider comment raconter ce que nous venons de vivre. Nous avons réussi à dérober un parchemin dans une auberge férocement gardée, triompher d'un gobelin entouré de trolls et échapper au nécromant grâce à un mélange de prudence et de ruse qui devrait te valoir les félicitations de ton oncle. Je garderai pour moi les références de la fille nue si j'étais toi, mais ça te fait une bonne raison d'y retourner. Bon, enfin, si tu le décides, bien sûr. et les nains vampires, j'en fais quoi ? Ils étaient assez ridicules, non ? Avec leurs canines surdimensionnées qui se prenaient dans les poils de leur barbe et leurs postillons. Personne ne prend au sérieux un guerrier maléfique qui leur dote. Tu trouveras autre chose. Alors, c'est comme ça que les histoires s'écrivent. Il a l'air d'avoir vieilli d'un siècle ou deux depuis notre départ. Et la boue n'y est pour rien. Les bains de boue, ça fait plutôt rajeunir, à ce que j'en sais. Des hyperboles, des fioritures et rien derrière. Je suppose que le fameux guerrier de diamant que vous avez victorieusement combattu la dernière fois n'a jamais existé. Là, tu te trompes. Je le remets en route d'une bourrade. J'ai horreur qu'on mette en doute mon intégrité professionnelle. Ce gamin a besoin d'une ultime leçon. Le nécromant a senti mon arrivée grâce à ses pouvoirs maléfiques. Au moment où j'atteignais la butte qui dissimule son antre, j'ai entendu le roulement d'un millier de tambours. Un vent froid s'est levé sur le marais et l'éclat du soleil a transformé le décor en rivière de métal fondu. Je me suis redressé, armé de mes seuls poings et du courage dont la nature m'a fait don. Face à moi, le guerrier a lentement émergé des sables mouvants. Il était aussi grand que moi et presque aussi épais. Son épée à la garde de G possédait une lame translucible capable d'éparpiller un rayon de soleil d'un seul revers. Les armes se brisaient à son contact. Son apparence suffisait à faire fuir tous ceux dont l'âme n'était pas assez bien trempée. Il avait été taillé dans un diamant gigantesque arraché du cœur de la déesse mère et il bougeait comme la lumière elle-même. Le souvenir de ce qui s'est passé ensuite me tord les tripes. J'avais marché longtemps pour atteindre mon but. 100 fois, le marais avait tenté de m'avaler de ses 1000 bouches voraces. Je m'étais perdu dans des méandres de tourbe et d'eau croupie, poussé par mon obstination et mon sens du devoir. J'étais affamé, j'étais furieux. Les forces du mal à l'œuvre autour de moi avaient jugé bon de m'envoyer une dernière épreuve, la plus difficile. Le guerrier s'est avancé vers moi, sûr de sa puissance, de son invulnérabilité. Ses articulations crissées comme du verre, mon estomac s'est mis à gronder. Et, s'impatiente Cédric, il était délicieux. Je me frotte machinalement le ventre. Mais pour être franc, j'ai bien cru que je n'arriverais pas à le finir.
Patrick Senecal, un petit extrait aussi pour notre public. On termine, non pas en chanson, mais avec des livres.
Alors, le très très bref contexte. Alice, qui est une fille qui va dans un nouveau quartier qui est complètement tordu, elle a 18 ans. Elle veut trouver la liberté, mais bon, elle va payer le prix. Et là, elle se promène la nuit, elle revient d'un bar, elle passe dans une ruelle. Et là, c'est la narratrice, d'accord? Alors, imaginez que j'ai 18 ans, c'est pas évident, et que je suis une fille en plus, mais bon. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Deux bras qui m'agrippent, m'entraînent dans la ruelle, me plaquent contre le mur de briques. Je veux me débattre, mais quelque chose se pointe sous ma gorge. Un couteau, shit, c'est un couteau. Un cri, un geste, je te saigne. J'ai compris. Je bouge pas, je halète. Il fait tellement noir, j'ai peine à voir mon agresseur. Je distingue des traits convulsés, des yeux fous, des dents serrées, visage inconnu. Un malade qui a choisi sa victime au hasard. Ça devait arriver, mon Dieu, à force de me promener la nuit dans ce quartier de taré. Comment j'ai pu croire que... Mais c'est trop tard, il va me tuer, me violer. Retourne-toi contre le mur. Sa voix est chevrotante, affolée. La mienne est suppliante. Par pitié, me faites pas contre le mur, espèce de petite pute. Ah, la lame qui pique ma chair. Je pleure, je me retourne contre le mur et je pleure. Il va me violer. Papa, maman, venez m'aider. Sortez-moi de là. Tout à coup, mon agresseur pousse un cri. Bruit de bagarre. Son cri s'éloigne un peu. Murmure, son étouffé, puis un glissement. Les bruits s'éloignent toujours. J'ose me retourner. Un miracle? Un sauveteur? Dieu en personne? Mais je vois rien. Je devine qu'on a traîné l'homme plus loin, à plusieurs mètres devant moi, dans l'œsophage ténébreux de la ruelle. J'entends alors le gars crier. « Lâchez-moi, lâchez-moi !» Espèce de « Du calme, mon ami, du calme !» rétorque une voix posée. « Mais oui, voyons, s'énerver ne sert à rien !» fait une autre voix. Les bruits ont cessé de s'éloigner. Une chute. Frottement. Mais que font-ils? Je reste planté là, incapable de bouger. Je veux savoir qui m'a sauvé ainsi, mais je vois rien. Il faudrait que j'avance un peu. Je fais 2 pas, puis stop aussitôt. Mon agresseur pousse une exclamation affolée. « Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous... Oh, mon Dieu! Oh, non, non, mon Dieu, non, ne... » Suivi d'un cri. Mais un cri. Et commence alors l'horreur. Mais pas visuel, puisque je ne vois rien. Mais sonore. Les hurlements se multiplient, atroces, accompagnés de sons épouvantables, tour à tour gluants et secs, mous et durs, visqueux et rocailleux. Au milieu de cet opéra infernal, les deux voix calmes se font entendre. Ma foi, difficile de travailler dans cette noirceur, n'est-ce pas? Absolument. Et santé, en plus. Ces voix, je connais ces voix. Les hurlements continuent, les sons empirent, et je ne vois rien, rien. Enfin, je peux bouger. Enfin, je décide de partir. Ma terreur est telle que je ne sens plus mes pieds toucher le sol. Honnêtement, je crois avoir volé jusqu'à la sortie de la ruelle. Au moment de m'engager dans la rue éclairée, entre deux plaines torturées, une des deux voix, et je reconnais parfaitement cet imperceptible accent anglais, persifle, agacé. « Il va mourir! Diantre, il va mourir! C'est le temps qui se venge encore! » Poursuivi par ces paroles insensées, je cours jusqu'à chez moi. Une seule phrase me martèle la tête. « Demain, je m'en vais. Demain, je m'en vais. » Et je sais très bien que je ne le ferai pas. Voilà.
Belle lecture, Patrick Sénécal. Merci beaucoup. Et puis, évidemment, on ne peut que terminer par notre coup de cœur. Jean-Laurent Del Socorro, ça sera un extrait de Boudica, j'imagine.
Oui, tout à fait. Un court extrait dans un élément qui la symbolise et qui a fait sa légende. La révolte est là, il faut prendre les armes, il faut se mettre en marche. Et... Je marche vers la foule qui se fend en deux pour me céder le passage. Je m'enfonce toujours plus loin dans l'armée jusqu'à arriver au premier rang, le bord du monde du guerrier. Je pourrais me placer entre deux combattants aguerris, mais mon choix est tout autre. Le garçon à ma droite, un Hyssène comme moi, ne doit pas avoir plus de 16 ans. Sa lance semble bien grande dans sa main à peine sortie de l'enfance. Je peux entendre son cœur battre avec force dans sa poitrine. Il y a quelques minutes, c'était sans doute de peur. Maintenant, c'est d'orgueil. Il dévore des yeux sa reine venue à ses côtés. La guerrière trinovante à ma gauche ne cache pas non plus sa fierté. Je retrouve un peu d'Isbal aux trois maris dans cette femme de 10 ans mon aînée. Elle avait sans doute pris le garçon avec elle pour mieux le protéger lors du premier assaut. À présent, elle n'a plus peur pour lui, car il y a une autre guerrière pour veiller sur elle, et elle, une reine à défendre de sa vie. Les épées des 11 clans sont enfin réunies pour abattre l'aigle, et un bouclier pour les mener. Nous descendons vers Camulodunum, comme la marée qui afflue. L'armée romaine, d'abord indistincte, devient peu à peu des silhouettes, puis des visages. Je balaye plus en détail les rangs adverses. Les Romains ne sont pas si différents de nous. Eux aussi sont terrorisés par la bataille à venir. Il y a quelques vétérans, mais la plupart sont bien jeunes, des aiglons davantage que des aigles. Rome nous envoie des enfants pour nous mater, et c'est nous qu'elle traite de barbares. Nous nous immobilisons à 200 pas. Les tambours des clans résonnent. Les carnix romains leur répondent. La première bataille s'engage, celle de l'intimidation, un combat d'orgueil qui ne sert qu'à masquer notre propre terreur. J'entends à peine les mots que m'adresse le jeune guerrier à mes côtés. « J'ai peur, ma reine. Moi aussi. Parfois, il faut se battre alors que nous sommes à peine sortis de l'enfance et parce que la guerre est le seul langage que les bêtes comprennent. L'air frémit, les mains se serrent sur les pommeaux, les souffles se retiennent et la musique s'éteint. Mon ultime harangue coupe définitivement le fil de nos destinées. » Il n'y a pas de honte à renoncer, car seuls les dieux ne connaissent pas la peur. Je ne vous jugerai pas. Je vous pose simplement la question. Serez-vous, aujourd'hui, à mes côtés ?
Vous avez été, je pense, très très nombreux. On était autour de 35 000, je pense, l'année dernière. Je pense que là, avec les chiffres qui sont remontés de la librairie, on devait bien être autour de 40 000. On est en train de devenir un très grand festival de littérature. Et pour ceux qui ont été les premiers invités du festival, Jean-Claude est arrivé dès la première année, en 2002. Il a fait partie des amis qui ont fait confiance au Festival Imaginal. Quand on lui a dit, c'est la première fois, on ne sera pas beaucoup. On n'a pas encore beaucoup d'argent. Il n'y a pas de TGV. À l'époque, c'était long, le trajet pour Épinal. Mais on a besoin de toi, parce qu'il faut vraiment qu'il y ait les meilleurs auteurs français pour qu'on commence à convaincre le public. Et ce discours-là, je l'ai tenu à trentaine, quarantaine d'auteurs. Les premiers, la vieille garde, entre guillemets. Ceux qui ont amené les premiers lecteurs, qui ensuite en ont trouvé d'autres, qui en ont amené d'autres. Et vous savez bien que quand on vient aux Imaginales, la première fois, après c'est fichu, on y revient régulièrement, pour ne pas dire tous les ans. Et je reconnais d'année en année toute une série de visages, et puis évidemment la marée des nouveaux lecteurs, des nouveaux passionnés du Festival des Mondes Imaginaires d'Épinal. On a encore une très très belle édition, on aura bientôt les chiffres définitifs, mais ils sont excellents, on a vendu encore plus de livres, je ne donnerai qu'un exemple. Une auteure qui m'a vraiment extrêmement impressionné, une auteure américaine, parmi tant, je ne citerai pas Robin Hobb et je ne citerai pas Christopher Priest qui est un ami du festival et tant d'autres, la nouvelle génération britannique, notre auteur évidemment russe aussi, qu'on retrouvera dans les années à venir, parce que des talents comme ça, on ne les laissera pas s'échapper des imaginales. Mais je parle de Nnedi Okorafor, cette grande auteure de fantasy et de science-fiction afro-américaine d'origine nigériane qui nous dit beaucoup de choses sur d'autres mondes, pas seulement des mondes futuristes, mais des mondes d'autres sociétés, d'autres visions, d'autres croyances et d'autres façons de fonctionner. Nnedi Okorafor avait un roman qui a eu le prix Imaginal. C'est le premier roman traduit, on a une quinzaine derrière elle. Hein. Ce n'est pas une jeune auteure aux États-Unis, c'est une auteure confirmée. Et elle le disait hier, si HBO m'a signé un contrat, c'était dans les tuyaux depuis un moment, et c'est aussi parce qu'aux États-Unis, maintenant, je suis une auteure reconnue. Mais en France, c'est une nouvelle auteure. Ça va très vite devenir une auteure confirmée, parce que vous allez voir le niveau de ses romans. Je vous incite évidemment à acheter et à lire, si ce n'est déjà fait, le prix Imaginal qui lui a été consacré, qui a peur de la mort, chez ActuSF. Mais il y a aussi Cabu Cabu, un recueil de nouvelles tout à fait magnifique, tout à fait original, un ton qu'on trouve nulle part ailleurs. Lorsque l'éditeur belge, l'Instant, qui a édité ce recueil et qui a pris des risques, parce que c'est un petit éditeur, en s'engageant dans ce travail, lorsqu'il arrive aux Imaginales, il avait 300 exemplaires, plus quelques services de presse, dont celui que j'ai dans mon sac, que je vais pouvoir dévorer, même si j'avais déjà lu quelques-unes de ses nouvelles. Et tout à l'heure, ce matin, il m'a dit... Il m'en reste deux à vendre. Il a vendu plus de 300 livres. Un recueil de nouvelles de science-fiction d'une auteure américaine qui débarque aux Imaginales pour la première fois. C'est dire à quel point on a un festival aujourd'hui qui a l'écoute des lecteurs, un festival qui est, comme on dit dans le milieu de l'édition, prescripteur, un festival, j'espère, qui vous donne beaucoup de bonheur, qui permet de rencontrer beaucoup d'écrivains. C'est cette année la 17e édition. Michel Henrich, maire d'Épinal, nous le disait lors de la remise des prières. La 18e édition, ça sera du 23 au 26 mai. Nous avons un merveilleux festival, une belle ville qui nous accueille, des auteurs qui, je crois, tous les obstacles levés, sont aujourd'hui des auteurs heureux. Un certain nombre d'entre eux seront là. On fera aussi des découvertes, d'autres reviendront plus tard. En tout cas, les Imaginales, c'est, disait un journaliste, et je l'ai repris à mon compte, le festival des belles rencontres. Ces belles rencontres, c'est grâce à vous lecteurs, c'est grâce à toute l'équipe que je remercie, à la fois les salariés de la ville d'Épinal, mais aussi les modérateurs, les traducteurs et les traductrices, parce qu'il y a beaucoup de femmes maintenant dans l'équipe de Les Imaginales, il y a beaucoup d'autres personnes, il y a une incroyable diversité chez les écrivains, chez les lecteurs, dans le public. Le festival des belles rencontres vous attend l'année prochaine. On espère et j'espère qu'il vous a donné beaucoup de bonheur. Vive la ville d'Épinal, vive les lectures d'imaginaire, vive la prochaine édition, vive celle-là qui s'achève et vive ceux sans qui nous ne pourrions pas faire ces imaginales et sans qui nous n'aurions pas ces bonheurs de lecture. Vive les écrivains français et étrangers.